Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Claire Fita. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. J'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio une femme politique élue de la région dont elle est la quatrième présidente et qui est chargée d'une bien belle délégation, la culture et les langues régionales. Bonjour Claire Fita.
Bonjour.
Alors, parcours classique, hein, Institut Sciences Po Toulouse, maîtrise de droit public, les IRA qu'on a appelé autrefois, Institut Régional d'Administration. Pourquoi vous êtes allé le faire à Nantes ?
Parce que c'était le seul institut où il y avait un poste pour les affaires maritimes. Et je me suis dit, bah, si jamais ça me plaisait, il fallait que je me réserve cette opportunité. Donc je suis allée à Nantes. Et je me suis régalée à Nantes.
Et oui, aux affaires maritimes, mais à Toulouse, les affaires maritimes, ça ne marche pas trop. Hein. Et donc vous êtes.
Je ne les ai pas choisies.
Vous ne les avez pas choisies, du coup. Vous êtes cadre de la fonction publique d'État, donc. Et aujourd'hui, j'imagine que compte tenu de votre charge. Vous n'exercez plus ?
Oui, je suis en disponibilité depuis que je suis vice-présidente.
Voilà, donc vous étiez avant élue, mais pas vice-présidente, si je comprends bien.
Tout à fait, alors j'ai commencé comme, tous, hein, avant d'être élue, c'est un parcours. Hein. Moi, je suis une femme de gauche qui a d'abord trouvé d'immenses plaisirs dans l'engagement associatif et puis des événements politiques comme 2002 qui font dire que ben, il faut franchir le pas, rentrer dans un parti parce qu'on a tous notre responsabilité quand il y a le FN au deuxième tour des élections présidentielles. Donc, je suis rentrée au Parti Socialiste et là, on m'a dit, ben, si tu veux faire, il faut se présenter à des élections parce que pour faire, il faut être élu. Donc, j'ai été élue locale à partir de 2008 de ma commune, Groyer. Et vous savez, ça va avec l'intercommunalité une rencontre, Martin Malvy. J'ai échangé sur les enjeux de la région, ex-Midi-Pyrénées. Une nouvelle rencontre avec Carole Delga et voilà.
Et c'est parti.
Et c'est parti.
Mais ça vous a pris très jeune.
Oh, pas si jeune que ça, mais bon, à la fois, moi, je viens d'une famille, je suis petite fille de réfugiés républicains espagnols, donc l'exil, l'engagement politique et faire des choix.
Oui, c'est dans l'ADN un peu,
voilà,
hein, c'est ça.
C'est dans l'ADN et mon papa aussi a toujours été impliqué et moi par... conviction, parce qu'un parcours et une histoire familiale, ça ne fait pas non plus les choix d'une personne, mais bien entendu que chez moi, ça ne posait aucun problème, en tout cas.
Vous posez une question que j'ai aussi posée à Carole Delga quand on avait fait, puisqu'elle a été aussi à votre place, à part qu'on avait fait l'émission dans son bureau. Vous êtes femme et vous êtes en politique. Est-ce que c'est compliqué ? Parce que quand on écoute les femmes qui font de la politique, on a quand même l'impression que ce n'est pas un chemin... bordé de pétales de rose. Ils font pas de cadeaux, les hommes, non ?
Mais alors, je pense que moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré que des gens qui m'ont fait confiance, ont eu envie de travailler avec moi, y compris, voilà, que ce soit des femmes, des hommes. J'ai bien sûr que quand on prendre des responsabilités, on est plus exposé et donc plus forcément pas attaqué, mais en tout cas vu et commenté. Et peut-être en effet que les commentaires des hommes sont un peu plus acerbes, mais en tout cas ça ne m'empêche pas.
Acerbes ou déplacés, parce qu'on parle de machisme, on parle même de harcèlement, hein, il faut le dire. Quand on regarde la presse nationale, on voit qu'apparemment les hommes politiques, on le sent chaud.
Non, moi, je n'ai jamais subi ni de harcèlement, ni de gestes déplacés. Vraiment, Mais bien sûr que je sais que ça existe, et ça, c'est une vérité.
Quand on lit le journal, on parle de M. Darmanin, de M. Coquerel, pour parler des derniers, mais, ou de M. Abad, ce qui est quand même très surprenant dans l'État, où, quand on le voit en train d'essayer de voter, de rentrer son bulletin dans l'urne, on se pose des questions pour le reste. Mais bon, voilà, apparemment, c'est quand même quelque chose d'extrêmement répandu.
Oui, mais donc, personnellement, je n'ai jamais été victime. Après, comme chez nous, même les mémés aiment la castagne. Donc s'ils étaient venus, ils auraient été reçus.
Voilà, puis quand on est fille de républicain espagnol, on connaît la bataille. Hein.
Et surtout, ça ne me gêne pas. Voilà.
Alors, à La Région, vous avez votre titre, j'ai regardé, c'est très curieux. Enfin, ça m'a surpris. Culture pour tous, patrimoine et langue régionale. Pourquoi la culture pour tous? Parce qu'il y a une culture qui n'est pas pour tous?
Non.
C'est le titre qui m'a surpris. Je me suis dit, mais pourquoi pour tous?
Parce qu'en fait, nous voulons porter une culture pour tous et partout. Alors, je pense que l'intitulé exact de la délégation, c'est « Culture pour tous et partout ».
Ça me rappelle l'intitulé d'un certain opéra éclaté aussi, oui. Donc, c'est l'explication. Et langue régionale étant au pluriel, j'imagine qu'elle est à l'occitan, elle est à l'occitanie, donc c'est parfait. Et puis, il doit y avoir un peu le catalan quand même.
Exactement. Langue et culture régionale, et c'est la richesse de notre région. On en a deux, occitan et catalan, et qui se parlent. Voilà, c'était vraiment une volonté aussi d'exprimer le fait qu'il n'y a pas de dominance par rapport à l'autre. Nous avons choisi un nom, et puis en tant que région, hein, et notamment...
qui n'a pas fait plaisir aux Catalans. Je me souviens des missions faites ici, parce que j'ai reçu des Catalans qui se plaignaient amèrement de ce choix qui, effectivement, ne les inclut pas vraiment.
Et
ils n'ont jamais été dans l'Occitanie. Ils ont été dans l'Espagne à une certaine époque, mais pas dans l'Occitanie.
Eh bien, si, ils y sont.
Oui, en fait, oui, ça, voilà. Ils y sont totalement.
Ils y sont. C'est l'Occitanie, pays catalan. C'est cette double identité. C'est une force et une richesse.
J'ai vu également que vous étiez... Alors, ça va m'expliquer ce que c'est. Vous êtes vice-présidente de la commission permanente. Alors, qu'est-ce que c'est que la commission permanente? Parce que, vu de l'extérieur de cette grande maison qu'est la région, il y a des fois des choses qui paraissent un peu ésotériques.
Oui, alors, comme nous sommes une grande maison, la région Occitanie, avec beaucoup de compétences, il y a plein de décisions qui sont prises. Et pour pouvoir être plus rapide, en fait, dans la façon dont on délibère et dont on met en place nos projets, on a notre assemblée plénière qui rassemble tous les élus et on a extrait dans la commission permanente, en fait, des représentations, bien entendu, de chaque groupe politique. Donc, c'est une instance qui est plus petite, où on a moins d'élus et là où on est dans un travail peut-être
c'est
plus technique.
C'est le gouvernement, alors, c'est ça, c'est le gouvernement.
Ah non, le gouvernement, non. C'est l'exécutif, ce sont les vice-présidents autour de la présidente. Non, la commission permanente, c'est vraiment celle qui se réunit tous les mois, qui décide plein d'attributions, de subventions, de projets plus techniques, si vous voulez, en termes de type de décisions qui sont prises. Et les assemblées plénières, là, on n'est plus sur des enjeux plus politiques, dans le sens mise en place de projets, de travaux pluriannuels, de stratégies politiques, quelle que soit d'ailleurs la compétence. Donc, nos assemblées plénières, on en a entre 3 et 4 par an. Par contre, les commissions permanentes, on en a tous les mois.
Comment on arrive à gérer un espace aussi vaste? Moi, je me souviens de Martin Malvy, que j'ai un peu connu, des fois accompagné. C'était quand même à taille humaine. Mais alors, courir d'un bout à l'autre de cette immense région, pour la présidente et pour les vice-présidents, parce que je pense qu'ils font pareil, comment vous arrivez à tenir? C'est une course de fond permanente.
Oui, mais ça se travaille, on dort bien, on mange bien et on lit beaucoup. C'est à la fois un exercice intellectuel formidable, mais aussi c'est vrai physique. Mais quand on a la niaque, c'est pas ni les kilomètres, ni la diversité dans l'appréhension des sujets qui sont des obstacles. Moi, je pense que cette grande région, Occitanie, comme vous dites, qui en effet, dans sa dimension, est impressionnante par aussi sa population, c'est important, presque 6 millions d'habitants. C'est une formidable opportunité pour tous les habitants de l'Occitanie.
Il y a quand même une différence entre ce qui était Midi-Pyrénées et ce qui était la région Languedoc-Roussillon, ne serait-ce que sur le plan politique, on l'a vu aux dernières élections. Le Front National tient un peu le haut du pavé dans le Languedoc-Roussillon, notamment à Perpignan d'ailleurs.
Oui, alors j'aurais tendance à dire que même dans le périmètre ex-Midi-Pyrénées, on voit aussi cette tendance qui est nationale, hein, de montée du Rassemblement national. Donc, y a des différences de culture, mais je pense que cette grande région, c'est une force parce que nous en avions besoin dans nos enjeux par rapport à l'État, notamment. Moi, je crois à la décentralisation. Je pense que plus on va rapprocher les décisions de nos concitoyens et plus on arrivera à prendre en compte les spécificités. Et assez étonnamment, vous allez dire, mais les régions, elles sont plus grandes, alors il y a moins de proximité. Eh bien non, ça nous a obligés à penser plus de proximité encore dans des politiques régionales. Avec, bien entendu, nos instances que sont les communes, qui sont quand même la cellule souche, hein, de notre démocratie représentative et qui ont une importance cruciale. Mais donc, je pense que cette grande région, au contraire, pour nous, région, et c'est vraiment ma présidente, ça, Carole, qui a tenu à avoir cette déclinaison de toutes nos politiques localement. Donc, on s'est aussi réinventé dans nos implantations locales. Donc, nous avons des maisons de région dans chaque département, voire sous-préfecture. Il y avait des équipes déjà de la région, mais qui n'accueillaient pas forcément le public et qui n'étaient pas cette porte d'entrée de la région. Donc, on a eu cette implantation locale et aussi cette pensée dans nos politiques pour dire, eh bien, quand on vit en métropole ou dans le milieu rural, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, comment on en tient compte, et notamment, bien sûr, pour la culture.
Le président Macron, lui, il n'est pas spécialement pour la décentralisation, puisqu'il centralise tout à l'Élysée. Sa décision de supprimer la taxe d'habitation, c'est quelque chose auquel vous adhérez ou pas ?
Alors non, moi, j'adhère pas à sa conception de la fiscalité. Voilà, tout court. Tout ce qu'il pense sur la fiscalité, moi, j'avoue ne pas adhérer. Je n'étais pas d'accord pour qu'il supprime les impôts sur la grande fortune, malgré les questions qui se reposent aujourd'hui dans notre contexte, il ne veut pas en entendre parler. Moi, je pense que pour lutter contre les inégalités, il faut redistribuer. Donc, ceux qui ont plus doivent contribuer plus au collectif.
On est déjà un pays qui redistribue quand même passablement, peut-être
bien sûr.
De ceux qui redistribuent les plus en Europe. Par contre, on a vu que, contrairement à d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne, le Parlement français s'est refusé à taxer les super-profits de certaines entreprises qui surfent sur la vague du Covid, qui surfent sur la vague de la guerre, etc.
C'est exactement
c'est
ça.
C'est choquant,
voilà.
Non ?
Exactement. Et c'est choquant comme il n'a pas remis en place l'impôt sur grande fortune, comme il ne veut pas mettre en place cette taxe sur justement ses super profits. Et
alors, pardon, je vous coupe.
Oui, bien sûr.
Mais Claire Fita, l'impôt sur la fortune existe toujours, mais il a été un peu tronqué quand même.
Ah oui, de plusieurs dizaines de milliards.
Mais il l'avait été aussi un peu avant, parce qu'on excluait tous les biens professionnels, et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs. On excluait un certain nombre de biens, par exemple les œuvres d'art qui avaient été exclues aussi, mais ça peut se comprendre. Hein, ça n'a jamais rapporté beaucoup d'ailleurs l'ISF, hein, ça coûte beaucoup à gérer. Mais ça constitue un fichier patrimonial absolument fabuleux pour l'État.
Alors, je pense qu'il faut avoir une vision où bien sûr que ça coûte, mais tout prélèvement a des frais de gestion. Mais les frais de gestion ne coûtent pas, ne sont pas à la hauteur des recettes que cela peut engendrer. Et puis surtout, dans cette vision que, en tout cas moi, je porte, la taxation du capital et du travail, d'avoir la même logique, on taxe autant le capital que le travail, ceux qui gagnent plus doivent contribuer plus pour l'ensemble de la collectivité. Sur les super profits, c'est la même logique. Et par rapport à la taxe d'habitation, qui est là aussi une prise en compte des revenus dans la fiscalité qui est menée sur les ménages, j'en suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que sur la TVA, il faut continuer à réfléchir à quelque chose de nouveau et de différent, parce qu'on taxe de la même façon, quels que soient les revenus.
Ah oui, ça c'est l'un des impôts les plus inégalitaires qui soit, mais c'est un peu plus de la moitié des ressources budgétaires de l'État. Quand
on
même,
est
la TVA,
d'accord, et d'ailleurs la région, elle en touche une part. Hein, dans l'État a supprimé un certain nombre de fiscalités pour la remplacer par une part de TVA qui est versée aux régions en tant que recette.
Si vous vous placez du côté d'un maire, par exemple, et vous disiez tout à l'heure fort justement que la commune, c'était quand même le premier noyau hein, de l'édifice, un maire qui n'a plus de taxes d'habitation, c'est un manque à gagner. Vous allez me dire, l'État le compense. Mais ce n'est pas tout à fait pareil quand même.
Non, ce n'est pas pareil parce que c'est le même raisonnement sur la fiscalité en général. C'est qu'il faut avoir un lien entre la fiscalité et les compétences exercées par la commune ou l'instance qui touche cette fiscalité. Une taxe d'habitation, ça veut dire qu'il y a des résidents. Et donc, des résidents, ça vit dans un collectif, et ce collectif, du coup, il organise ses dépenses pour accueillir cette population. C'est comme, par exemple, les collectivités comme les intercommunalités ou les régions qui ont dans leur champ de compétences le développement économique, l'aide aux entreprises, qui est un lien entre les recettes portées par les entreprises auprès des collectivités et les compétences exercées, ça c'est important. Donc oui, le maire va perdre la taxe d'habitation en termes de recettes et qui va avoir une dotation de l'État, ce ne sera pas la même chose parce que la dynamique ne sera pas la même.
L'état d'esprit n'est pas du tout le même.
Et l'état d'esprit de lien entre la ressource et la politique menée pour pouvoir développer cette ressource aussi, parce que l'enjeu, c'est d'accueillir des habitants dans de bonnes conditions, avec de vrais services publics, donc que le collectif il puisse s'exercer sur l'enfance, sur la culture, mais aussi bien sûr sur les routes, sur tout ce qui est infrastructure. Et donc l'état d'esprit est totalement différent, et je pense que autant il faut avoir de la justice dans la fiscalité, parce que qu'on tienne compte de la progressivité par rapport aux revenus des individus, autant cette fiscalité, elle est importante pour qu'on continue de vivre ensemble.
Alors, la redevance, qu'est-ce qu'on faut en penser de cette suppression de la redevance, fort curieuse?
Oui, moi j'étais surprise que ça fasse partie du programme du président de la République.
Il y a d'autres choses qui nous ont surprises.
Oui, mais on a peu parlé, et je le regrette sincèrement, de la culture durant ces élections présidentielles et législatives.
Et de l'environnement, c'est deux choses dont on n'a pas parlé, c'est les deux grands absents du débat qui sont peut-être les deux grands enjeux de demain.
Et donc la première mesure prise, c'est cette suppression de la redevance. L'indépendance d'une organisation, elle vient de la façon dont elle se finance. Donc je veux bien décorréler l'indépendance du service public audiovisuel, radiophonique et ses modalités et ses recettes. Mais quand même, ça a un vrai lien. Donc qu'on garantisse les ressources de notre service public qui était jusqu'à présent en lien avec la redevance télé, oui, en effet, là, il faut vraiment se poser la question. Donc, je le regrette parce que je ne vois pas les garanties apportées à l'indépendance de nos médias. Là où il y a moins de culture, il y a moins de démocratie. Là où il y a la liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est primordial pour exercer notre démocratie en ouverture et en éclairage de la réalité.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, donc il n'est pas dit que la chose passe aussi bien, parce que l'attribution d'une fraction de la TVA va certainement juridiquement poser beaucoup de problèmes. Affaire à suivre.
On est d'accord, affaire à suivre.
Le PS, vous êtes au PS, je crois.
Oui,
vous avez
tout à
la
fait.
Carte du PS.
Oui, j'ai la carte.
Bon, alors vous êtes encore quelques-uns, on en rencontre de temps en temps, hein, par-ci, par-là. Comment ça se passe au PS aujourd'hui? Vous avez un dirigeant qui a assuré ses arrières, ça on l'avait compris. Certains disent qu'il s'est couché. D'ailleurs, il finira par avoir des escarres à force de se coucher, ce garçon. Vous allez le reconduire à la tête du PS?
On va voir ce qui se passe. Donc, comme toute organisation, on a nos instances de délibération. Nous, on aime beaucoup voter. On va voter normalement à l'automne, hein, puisqu'on a un congrès. Alors, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, on va essayer de se mettre autour de la table, de comprendre nos différences, qui se sont d'ailleurs exprimées au moment de cet accord, labellisé NUPS, où moi, mais comme d'autres collègues socialistes, camarades, comme on dit chez moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours été pour l'union de la gauche, le combat d'une socialiste.
Mais ça, tout le monde est pour l'union de la
voilà,
gauche. Mais
en on fait, est...
apparemment, on n'a pas, de toute façon, on ne regarde pas tous dans la même direction, les gens du PS, si j'ai bien compris.
Voilà, on ne regarde pas forcément dans la même direction, parce que cette union de la gauche, elle doit se faire sur de vraies valeurs, des convergences saines et sereines sur le chemin à moyen et long terme. Qui est des accords de circonstances, ben oui, voilà, hein, pour gouverner, il faut savoir faire des compromis. Et donc, c'est ce qui a été fait par la direction du Parti Socialiste. Moi, je
ça le un compromis, vous dites.
Oui. Alors oui,
c'est
je
gentil
veux être.
Comme terme,
c'est gentil ouais, parce c'est que bon, moi, pour être très.
Je dirais une compromission plutôt.
Voilà, moi, j'y étais opposée. Voilà, moi, j'y étais opposée parce que je ne pense pas que avec la France insoumise, nous ayons et le même idéal et surtout les mêmes méthodes hein, pour pouvoir construire et pour pouvoir porter. Mais pour autant, on se rejoint sur des valeurs de gauche. Donc voilà, il faut savoir aussi quel est son camp. Mon camp, c'est la gauche. Mais au sein de la gauche, moi, j'ai besoin d'une gauche qui fait et pas une gauche qui est uniquement en colère et qui déclame.
J'ai toujours trouvé que ça peut s'appeler insoumis. C'était d'une prétention colossale. Mais surtout que c'est des gens qu'on n'a jamais cherché à soumettre non plus. C'est très curieux. On fait une première pause musicale. Claire Fida, c'est vous qui l'avez choisi. Alors, vous avez choisi des gens qu'on connaît bien ici et dont on a souvent le père au micro, même qui vient avec sa guitare. C'est Big Flo et Oli. Et sacré bordel. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
Et d'un, parce que c'est des artistes qui ont un formidable talent. Et de deux, ils sont toulousains. Hein, alors,
extrêmement sympathiques.
Oui, vraiment charmants. Et qu'ils ont proposé... Moi, j'ai toujours été fan de Ma France, de Jean Ferrat. Voilà. Et comment on arrive à exprimer le patriotisme de gauche. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai entendu dans leurs chansons. C'est un message de la jeunesse sur « J'aime la France ». Et j'y mets aussi tous mes doutes, tous mes questionnements. Et je trouve que moi, j'ai une entière confiance en la jeunesse. Et quand j'entends des chansons comme ça, eh ben, je me dis « t'as bien raison ».
Alors, on va voir si vous avez raison, on les écoute.
Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si en douter devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Autant de cons que de complexes. Si je pars, vous allez pas manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe, je cherche, il y a des Français. J'aime la France comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort. T'as vu depuis combien de temps ça dure? Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère? Voir ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. On sait qu'après les coupes du monde ou les attentats, comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi la pharmacie, qui m'emmenait gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences. Trop de promesses, on fait connaissance, mais combien se connaissent? Faut qu'on progresse, pour être honnête. Moi, la France, j'ai tendance à l'écrire avec un S. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi, tirer où s'il venait la guerre? On oublie l'histoire, on refait l'histoire. La paix au pied du mur de nos frontières. Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol, est-ce que c'est grave? Et il écrit « Vive la France » avec une faute d'orthographe. Beaucoup de questions, peu de réponses. J'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser? Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. Et putain, ce que j'aime la France, pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais. Mais on se bouffe entre nous comme des cannibales. Tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical. Tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein. L'estime de soi est haute. On rejette la faute sur l'autre. Mais les autres, c'est nous.
Voilà, c'était Sacré Bordel de Big Flo et Oli, le choix de mon invité Claire Fita. Alors, Claire Fita, je le disais en commençant, vous êtes la ministre de la culture de la région et de Madame Delga. La culture, c'est un grand mot que l'on met un peu à toutes les sauces. J'ai regardé la définition qu'en donne l'UNESCO. Alors je la cite, hein, la culture dans son sens le plus large est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. C'est une définition qui vous va bien ou vous en avez une autre?
Alors, bien sûr qu'elle me va bien, parce que je serais pas, j'arriverai pas à être aussi exhaustive et globale. Mais moi, ma définition, c'est celle qu'on porte à la région en termes d'ambition. C'est peut-être aussi des grands mots, mais en tout cas, il me semble que ça parle à tout le monde. C'est la culture pour tous et partout. Et c'est le sens même de ma délégation. Et donc, la culture, c'est le récit commun, mais c'est aussi l'émancipation, l'émotion partagée, l'ouverture, la tolérance, c'est l'ensemble de ces propositions. Donc, il y a des esthétiques, mais il n'y a pas de catégorie pour moi dans la culture. Il ne doit pas y avoir de hiérarchie.
Je vous rassure, en 52, en fait 1952, puisque maintenant on changeait de siècle, il faut préciser, il y avait deux anthropologues, c'était Kreuber et Kluck-Kohn, qui ont rédigé une liste de plus de 150 définitions différentes du mot culture. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Mais pour revenir sur cette culture dans notre région, comment elle se porte, cette culture? Est-ce qu'elle est vivace dans toutes ses composantes ou pas?
Alors oui, elle est vivace, hein, parce qu'il y a des talents partout et surtout il y a des envies, il y a des énergies, que ce soit bien sûr d'artistes, de créateurs, mais aussi de plein de bénévoles qui veulent faire vivre leurs propositions culturelles et artistiques dans tous les territoires. Mais pour autant, elle est fragile. Elle est fragile, notre culture, parce que nous venons aussi de vivre une période difficile de la pandémie, qui tout d'un coup, on a entendu que la culture, elle n'était pas essentielle. Ça a été aussi une remise en cause terrible, en tout cas sur le symbole. Après, il y a eu des aménagements et une prise en considération, réaffirmer qu'elle était essentielle. Et bien entendu que quand on a une culture sans public, parce qu'il y a eu des créations bien entendu, mais l'incapacité de pouvoir se retrouver pour partager ces moments-là, eh bien ça fragilise aussi des modèles économique, parce que la culture, c'est l'émancipation, c'est un enjeu démocratique, mais c'est aussi une filière avec des emplois. En région, ça représente plus de 70 000 emplois.
Vous devancez ma question. Donc, 70 000 emplois. Je me posais la question de savoir effectivement combien de personnes travaillent dans la culture. La culture aujourd'hui, est-ce que ça vous paraît essentiel dans une société aussi morcelée que la nôtre? Est-ce que ce n'est pas la seule voie qui permettrait de refaire un peu, de ressouder les gens, de refaire société? C'est pas un très joli terme, mais enfin, tout le monde le comprend.
Pour moi, les deux piliers du pacte républicain, de la promesse républicaine, c'est l'école et la culture. Voilà, il n'y a pas d'égalité, de liberté, de fraternité sans l'école et l'émotion partagée et le récit commun. Donc oui, la culture, on en a toujours eu besoin. Hein, voilà, il y a une permanence de ce besoin vital. Et oui, vous avez raison, qu'on garde toujours au cœur, en tout cas en tant que collectivité comme la région Occitanie, la culture dans l'ensemble de ses politiques. Ça n'a jamais été aussi prégnant et c'est important.
Alors qu'est-ce qu'elle fait la région pour la culture? Déjà, est-ce que vous avez un budget qui est dédié à la culture, que vous gérez ou pas?
Oui, tout à fait. Nous avons un budget de 67 millions d'euros par an. Voyez,
pour la culture ?
Pour la culture. Et vous savez, on distingue le fonctionnement et l'investissement. Donc l'investissement, ce sont plutôt sur des grands projets avec aussi une logique immobilière. Hein. Donc ça, on a 40 millions d'euros en fonctionnement et le reste en investissement. Et surtout, ça fait partie des budgets que nous avons préservés, hein, parce que comme la fragilité de nos acteurs culturels qui s'est accrue avec cette crise pandémique pour les collectivités, c'est aussi compliqué pour la région. On a essayé vraiment d'être force de proposition et de solution durant la crise, y compris auprès de nos acteurs culturels, hein, où on a essayé d'être dans cette urgence avec les autres collectivités, avec l'État. Hein. Je pense que vraiment tout le monde s'y est mis et c'était très important que tout le monde s'y mette. Donc pour nous, on a voulu créer une solution à Association Occitanie, vous voyez, parce que beaucoup de nos acteurs culturels sont sous forme associative. C'est beaucoup d'économie sociale et solidaire, la culture. Et donc, plus de 21 millions d'euros pour être dans cette urgence. Mais on a aussi voulu dialoguer durant la fin de la pandémie pour qu'on puisse comprendre à la fois, parce qu'on dit, bien sûr, la crise, elle a fragilisé, mais il y avait quand même des évolutions en termes de pratiques culturelles, artistiques de nos publics qui étaient structurelles ou en tout cas qui étaient latentes, qui se sont peut-être juste accélérées en termes conjoncturels à la suite de cette crise. Donc comment on est là aussi, nous collectivités, en accompagnement de ces mutations sociales, sociétales, et accompagner aussi nos acteurs culturels dans ces changements et dans cette création pour préserver cette diversité culturelle qui est grande dans la région.
Vous avez parlé de 67 millions. Comment vous arrivez à les répartir? Quelles sont les clés de répartition? Il y a des critères? Comment ça se passe?
Alors déjà, il n'y en a jamais assez. Hein.
ça, c'est sûr.
Et puis, il y a toujours énormément de projets, d'idées qui sont excellentes et que on n'arrive pas toujours à répondre favorablement aux sollicitations. Et c'est un crève-cœur, quoi. Bien sûr que choisir, c'est renoncer, hein, mais il faut le dire aussi, on est triste d'être obligé de renoncer. Du coup, on essaye de travailler avec les autres en disant « mais toi, tu ne peux pas faire pour soutenir ». Donc oui, on a des critères, hein, et c'est transparent. On vote d'ailleurs en commission permanente et en assemblée plénière nos critères qui sont sur le site. Alors là, comme on a voulu lancer une nouvelle stratégie pour le mandat, pour tenir compte de ces évolutions sociétales et puis de la suite de la crise sanitaire. Donc là, on en a voté en juillet. Ça va paraître sur le site à partir de septembre. Et nos critères, alors vous savez, la culture, c'est une compétence partagée. C'est-à-dire que tout le monde peut intervenir sur cette compétence-là, sur cette mission. Et c'est important. Donc, mais chacun, on a un peu nos spécificités. La région, grande maison, elle est par exemple beaucoup sur le soutien à la création. Alors que par exemple, d'autres collectivités le sont moins. La commune en général, elle est moins sur le soutien à la création. Le soutien à la création, eh bien, c'est une création de spectacles vivants, c'est une production d'œuvres contemporaines, picturales, c'est la création. Et pour nous, ça, on a des critères, c'est-à-dire que les critères, c'est autour du projet et c'est autour, par exemple, dans les nouveaux critères, de l'implantation territoriale aussi du projet de création qui va se tenir, parce que on a voulu allonger par exemple le temps de création donné aux artistes. Avant, on avait des aides au projet sur un an. Là, on a dit on le met sur 2 ans pour qu'ils aient plus de temps pour leur création, mais aussi plus d'imprégnation du territoire et de travail avec les habitants de ce territoire. Donc l'ancrage territorial, pour nous, on a voulu le mettre vraiment en avant. Donc ces critères, ils sont là. Ensuite, il peut y avoir des critères aussi, bien entendu, sur le statut des artistes. Et on a des techniciens, bien entendu, qui travaillent avec les les équipes artistiques et les lieux culturels pour pouvoir comprendre leurs sollicitations et leurs projets. Et ensuite, on fait appel à ce qu'on appelle des comités conseils, donc des gens qui ne travaillent pas dans la collectivité, dans la région, qui ne sont pas élus, mais qui ont une connaissance de telle ou telle esthétique, de tel ou tel type de projet, et qui nous donnent un avis sur chaque projet, parce que bien sûr qu'il y a de la subjectivité hein, dans un projet oui. culturel, et tant mieux, mais pour arriver à objectiver un maximum, je ne dis pas totalement, parce que ce n'est pas le but non plus, mais en tout cas objectiver au maximum, on a choisi d'avoir ces références à certains qualifieront d'experts, mais pas forcément que des experts, c'est vraiment des gens aussi, des militants de la culture qui ont une implication.
Ils ne sont pas un peu jugés partis.
Ah ben, il ne faut pas qu'ils aient de lien avec les projets portés. Voilà, ça fait partie aussi des règles qui régissent le fonctionnement. Comme les élus, vous savez, il ne faut pas qu'ils aient de lien. Ils ne peuvent pas voter, par exemple, quand c'est une association. Ils ne peuvent pas voter une subvention à une association à laquelle, par exemple, ils appartiendraient. Il faut qu'ils ne participent pas au débat.
Et donc, oui, ça, c'est la théorie. On sait que derrière, il y a quand même des amitiés, des réseaux et des renvois d'ascenseurs. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, peut-être.
Peut-être que ça, sur le fait que ce soit compliqué, sans doute, mais c'est très important pour nous, cette transparence et cette déontologie, cette éthique. L'élu doit être exemplaire. Hein, donc, comment on réfléchit en éthique, cette façon de travailler. Donc, vous voyez, bon, bien entendu, il y a la loi qui a beaucoup évolué là-dessus, où on a une autorité de la transparence de la vie publique, où on déclare. Du moment que vous adhérez à une association, vous devez le dire à l'autorité de transparence. Hein. Et donc, ben chez nous, c'est très clair, à la région en tout cas, on ne peut pas participer au débat de toutes les associations auxquelles nous adhérerions éventuellement. Et puis ensuite, c'est la même chose pour les experts. Et on a même aussi des gens, des juristes hein, qui nous aident à travailler au-delà sur le droit, parce que je veux dire, le délit, tout ça, on n'est pas dans une question pénale, vous voyez, ou stricto sensu juridique, on est dans une question déontologique. Hein, comment on est exemplaire dans les décisions que nous prenons.
Ah ben, vous avez un bon spécialiste du droit auprès de vous, Serge Regour, que l'on salue, qui est déjà venu à ce micro et qui reviendra, je l'espère. Vous avez évoqué tout à l'heure 70 000 intervenants dans la culture. Ce sont des salariés ou vous comprenez également des bénévoles ?
Non, alors on ne compte pas les bénévoles. Hein, dans les emplois, on ne compte salariés, voilà. Intermittents, ce sont vraiment les personnes qui vivent.
Si on met les bénévoles en plus, et dans ce secteur-là, Dieu sait qu'il y en a, j'imagine que le chiffre doit être multiplié par 3 ou 4.
Oh oui, même facilement. Peut-être par 10, oui, même, c'est même oui, encore peut-être possible. Beaucoup plus. Oui, oui, non, le bénévolat, ce sont des acteurs vraiment très importants de la culture. Non, là, je compte que les personnes qui ont revenu de leur activité dans le domaine culturel.
Alors, le quotidien culture de la vice-présidente consiste en quoi ? Comment vous gérez ça ? Parce qu'il y a l'attribution des fonds, c'est sûr, mais après, vous êtes, j'imagine, très souvent dehors. D'ailleurs, je le sais parce que pour avoir rendez-vous avec vous et vous attirer à ce micro, ça a été un peu compliqué. Donc, comment gérez-vous vos journées ?
C'est pour moi, enfin, en tout cas, c'est passionnant parce que c'est d'abord des rencontres derrière éventuellement une subvention, mais ça peut être d'autres soutiens aussi hein, de la région. C'est d'abord comprendre hein, quels sont à la fois les enjeux d'un territoire, des acteurs et la proposition culturelle qu'ils font, que ce soit dans le domaine du patrimoine, de l'occitan, du catalan, que ce soit dans le domaine du théâtre ou de la musique. Donc, ben voilà, dimanche, j'étais dans l'Aveyron. Hier, j'étais dans le Tarn. samedi et dimanche, je serai dans le Lot et je multiplie les rencontres. Alors ensuite, bien sûr, je rencontre beaucoup de gens aussi à Toulouse, à Montpellier, hein, parce que le travail aussi avec les équipes hein, qui travaillent à la région, ça se fait principalement à Toulouse et à Montpellier. Et on est à la fois dans comprendre les projets qui nous sont, où on nous sollicite, mais essayer aussi de construire sur le court, moyen et long terme la cohérence dans la politique publique culturelle que nous menons.
Les grands lieux culturels d'Occitanie, il y en a. Il y a des lieux qui sont beaucoup plus dédiés, portés sur la culture.
Je crois que, alors, bien sûr qu'il y a des reconnaissances de certains lieux plus importantes que d'autres, mais je crois que notre principale caractéristique, c'est qu'on a vraiment cette existence partout sur nos territoires. Et voyez, par exemple, les compagnies de spectacles vivants, on pourrait dire, oh là, elles sont toutes à Toulouse et à Montpellier. Pas du tout. Hein. Il y a vraiment une répartition sur l'ensemble de la région, et y compris, et de plus en plus, et ça, on est très attentif à ça en région parce qu'on y tient à ce que le monde rural, mais aussi ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, donc la périphérie, vous voyez, urbaine, elle soit aussi des lieux attractifs de la création culturelle. Donc, et puis chacun voit sa propre définition de la culture. Vous le disiez, il y a plus de 150 définitions, mais académiques. Alors, la définition par chaque individu, elle peut aussi beaucoup évoluer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a beaucoup de bénévoles. Parce que dans nos associations, pour porter tel ou tel projet, et d'ailleurs, l'entrée, elle peut ne pas être forcément culturelle hein, au départ, et le devenir.
Alors justement, si je vous dis le miam, vous savez ce que c'est que le
miam ? Oui, les arts modestes.
Voilà, j'ai découvert ça hier en écoutant un podcast de France Culture, donc je ne connaissais pas Hervé Di Rosa et son musée de Sète, vous l'avez visité ?
Oui. Mais surtout, je veux y revenir. Alors, je l'ai visité sans Hervé Di Rosa, donc je veux y revenir avec Hervé Di Rosa. Je le solliciterai, bien sûr, parce qu'en plus, à Sète, hein, en termes là d'art modeste, ou en tout cas d'art contemporain et d'art tout court, c'est l'émulation. Et d'ailleurs, c'est Sète et Montpellier hein, qui candidatent comme capitale européenne de la culture pour 2028. C'est tout ce territoire-là, vous voyez, qui candidate et qui porte un beau projet culturel de territoire.
Donc voilà, je l'ai découvert en écoutant la compagnie des œuvres de Mathieu Garrigou-Lagrange sur France Culture. Je ne le connaissais pas, il a un accent charmant. D'ailleurs, on sent qu'il est bien de chez nous et il a un propos extrêmement intéressant qui montre que la culture, c'est peut-être beaucoup plus large que ce que certains veuillent bien penser. Quel est le rôle de l'éducation, et notamment de l'éducation nationale, dans la culture, ou autrement dit, est-ce que vous pensez que l'éducation nationale joue le rôle qu'elle devrait jouer dans ce domaine-là ?
On a tous un rôle pour mettre la culture au cœur du projet éducatif. Et c'est vrai que l'éducation nationale en a le premier, puisque c'est sa mission, l'éducation et bien entendu l'éducation artistique et culturelle. Mais nous aussi, région, on est convaincus que nous avons notre propre rôle à jouer. Donc là, on est force de proposition. Vous voyez, dans notre nouvelle stratégie, on voudrait expérimenter, parce que là, la dernière loi 3D nous le permet, de rendre obligatoire des pratiques artistiques et culturelles sur le niveau élémentaire. Notre idée est de dire, nous, région, on est convaincus que la culture, c'est à l'école. Et donc, à l'école, il faut bien sûr découvrir, mais il faut aussi pratiquer. Et il faut pratiquer dans son environnement. Comme je vous disais, il y a des artistes partout. Il y a des créateurs partout, dans tous les territoires. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une vraie appropriation des habitants, des richesses qu'ils ont autour d'eux. Et donc, permettre à des artistes, des intervenants qui ont vraiment cette culture de la médiation culturelle, tous pour partager l'émotion, il faut qu'ils transmettent les clés aussi de cette émotion. Et donc, en tout cas, ceux qui le souhaitent, bien entendu. Et donc, arriver dans des territoires qui le souhaiteront, hein, nous, région, accompagner cette pratique artistique et culturelle obligatoire, donc avec des intervenants extérieurs, bien sûr, ensuite des enseignants, mais qui n'ont pas forcément non plus tous les outils autour d'eux pour pouvoir mener cette éducation-là. Donc là, on voudrait vraiment mettre en place ça, et on a des territoires qui commence à nous dire, ben nous, on serait d'accord et on voudrait avoir une expérimentation dans un territoire rural, une expérimentation en milieu urbain, quartier politique de la ville, pour voir ben, comment on peut faire et surtout, qu'est-ce que ça donne. Donc, ensuite, nous, vous savez, on a comme compétence principale les lycées, hein, puisque les communes, c'est les écoles, les départements, le collège, et la région, c'est les lycées. Peut-être qu'un jour ça changera, hein, tout ça, mais pour l'instant c'est comme ça. Et donc les lycéens, avec la carte jeune, nous derrière la carte jeune, c'est la rentrée la moins chère de France, parce que l'éducation ça a un coût au lycée. Et c'est, pour nous, c'est pas admissible. Donc on a rendu la gratuité des manuels scolaires, un ordinateur portable aussi gratuit, parce qu'aujourd'hui, bon, moi je suis attachée à. J'aime toucher mon livre, mais je suis aussi sur mon écran, hein, parce que les quotidiens, bon, j'arrive pas à les acheter version papier forcément tous les jours. Donc bref, voilà, c'est ces deux outils-là qu'il faut donner à notre jeunesse et qui est derrière aussi des propositions culturelles. Et c'est l'éducation, ben, par exemple, à l'image, où on est très attentif et il y a un gros travail mené par de très très belles associations sur l'éducation à l'image avec un programme qu'on met en place. Et donc voilà, on a plein d'exemples et c'est vrai que les lycéens sont aussi notre cible privilégiée parce que c'est notre compétence et qu'il y a plein de besoins.
Le sujet est passionnant, on parlerait des heures, mais vous n'avez pas des heures à nous consacrer. Le temps file très vite. Alors radio, c'est un peu l'école de la frustration quand même, il faut bien le dire. Un mot sur les langues régionales. Qu'est-ce que vous faites pour les langues régionales? Nous avons les calandrettes au niveau de l'Occitanie. Je ne pense pas que les Catalans aient une structure similaire.
Si, tout à fait. Si, oui,
c'est le, c'est ils vont, le même. Ils vont me maudire si on ne le cite pas.
Ce sont des écoles,
des écoles bilingues.
Voilà, des écoles bilingues. C'est vraiment la même chose. Langue et culture régionale, il y a à la fois l'importance de valoriser nos cultures régionales, hein, et d'arriver à préserver, hein, parce qu'on est dans cet enjeu pour l'Occitan. On n'a pas assez de locuteurs, donc nous on mène des politiques et c'est mon collègue Benjamin Assier, hein, qui est conseiller régional en charge de ces enjeux de langue et culture régionale, et j'ai une autre collègue Eliane Jariki qui travaille sur la catalanité.
Ah oui, je connais bien Eliane Jariki, hein, voilà, qui vit dans les montagnes un peu.
Et oui, dans les Pyrénées orientales, et donc là elle mène aussi l'aspect de réflexion sur la catalanité. Et le travail que nous menons d'ailleurs aussi avec l'Euro-région, hein, puisqu'on est dans l'Euro-région avec la Catalogne, avec les îles Baléares, donc il y a là aussi un intense dialogue qui est essentiel. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons être moteurs véritablement sur le développement des locuteurs. C'est-à-dire que ça passe par la formation, donc avec l'éducation nationale, là on est partenaire, pour que nous ayons des enseignants, parce que c'est ça, par exemple, le premier enjeu pour transmettre. Il nous faut des enseignants qui puissent transmettre et le catalan et l'occitan. Donc, on accompagne cela. Donc, on crée des bourses pour nos enseignants pour qu'ils puissent se former. Ensuite, c'est développer l'enseignement de l'occitan et du catalan, bien sûr par les calandrettes, mais aussi dans nos écoles, nos collèges publics. Comment on fait en sorte que ces options, elles soient présentes partout. Et on a une grosse inquiétude parce que la réforme du lycée a eu des conséquences extrêmement négatives sur l'enseignement du catalan et de l'occitan. Ça a fortement diminué le nombre de lycéens qui bénéficient de ces options. Parce que vous savez, avec cette réforme des spécialités là, et de concentration sur un certain nombre de spécialités, ben, voilà, la conséquence, là, on la mesure bien aujourd'hui. Donc, comment on inverse la tendance? Et puis ensuite, c'est aussi dire que nos langues et cultures régionales, c'est la fête, c'est total festum. Et donc, faire en sorte qu'il y ait des initiatives sur ces projets-là qui puissent être soutenues, et notamment par la région. Donc là, il y a eu, depuis le mois de juin, une succession dans toute la région Occitanie, Total Festum, et ça, c'est pas encore fini.
Allez, je vous propose quelques mesures de Jacques Offenbach, la Péricole, pour souffler un peu, pour vous permettre de souffler un peu, parce que vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Il faut que vous reposiez quelques secondes et après nous allons attaquer la troisième partie de cette émission.
C'est lui, c'est...
Voilà, on va laisser Offenbach parce que le temps passe vite et notre invité a une journée, un emploi du temps chargé. Alors, Claire Fita, quand vous ne travaillez pas pour la région, il faut quand même bien vivre un peu. Comment vous occupez votre peu de temps libre ?
J'adore la lecture. J'ai toujours 5-6 bouquins sur le feu et il me faut au moins ça, hein, parce que ce soit alors forcément des bouquins de sciences politiques, de sociologie, un bon polar, toujours dans les tuyaux, et souvent voilà, une référence classique que j'ai déjà lue, mais que voilà, j'y reviens de temps en temps, parce que ça fait partie de la nourriture.
Vous arrivez quand même à trouver le temps, parce qu'il faut aussi une certaine disponibilité d'esprit, ne pas s'endormir sur le livre. Quand on lit trois fois la même phrase, c'est pas bon signe.
Eh bien, disons que je choisis mes horaires. Voilà, je peux pas lire mon bouquin de sciences politiques pour m'endormir. Hein. Voilà, là, ce sera mon polar ou ma littérature. Hein. Et par contre, le matin tôt, en buvant le café, là, je peux lire un paragraphe. Bien sûr, j'ai jamais assez de temps, hein, mais ça, je crois qu'on est un peu aussi tous dans cette situation-là.
Une œuvre d'art qui vous a marqué ?
Alors oui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me touche personnellement et qui, je pense, touche toute notre région. J'ai découvert, moi, Josep, déjà, voilà, un film d'animation.
On l'avait vu avec Rachida Lucaso au Festival de Tournefeuille, je crois, c'est ça, du film historique de Tournefeuille.
Et qui a beaucoup, beaucoup tourné parce qu'il a été primé. Ouais. Il a été donc réalisé en 2020 par...
Magnifique dessin animé.
C'est l'exil.
C'est très dur.
C'est la souffrance des camps d'internement, mais c'est aussi l'amitié entre un réfugié républicain et un gendarme, alors que les autres sont dans des paroles et des actes terribles. Bien voilà, une amitié qui naît. Et ce film d'animation, voilà, c'est réalisé en Occitanie, produit en Occitanie, une formidable reconnaissance nationale et au-delà. Et puis c'est notre histoire, hein, la retirada, comment aussi on se projette aujourd'hui avec notre responsabilité sur l'accueil digne que nous devons avoir auprès des réfugiés.
Quand on en reçoit 3000, tout le monde hurle au charron, alors qu'à l'époque, en 15 jours, il y a 500 000 républicains espagnols qui ont passé l'école catalan. Donc, remarquez, on ne les a pas mieux accueillis, mais ceci est une autre histoire.
Et c'est vrai que, en lien avec, bien sûr, ce film d'animation, hein, il y a le mémorial de Rivesaltes, hein, qui a proposé une expo. Enfin voilà, quand j'y vais déjà, quand on rentre dans le mémorial, hein, y a quelque chose qui se passe. Hein, et ensuite, quand on découvre l'expo, le chemin de l'exil d'ailleurs, qui est proposé. Donc ce sont des œuvres de Josep Bartoli, hein, qui a aussi bien entendu inspiré le film d'animation. Hein, c'est sa vie, c'est ce moment-là d'exil et d'internement qu'il a vécu.
C'est ses carnets, je crois, parce qu'il dessinait Josep Bartoli.
Tout à fait.
C'est ces carnets qui ont été repris par Josep et qui sont, encore une fois, c'est tout à fait saisissant. C'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est une page d'histoire. C'est magnifiquement réalisé sur le plan technique, donc c'est une grande réussite. Hein. Il faut absolument recommander à tout le monde d'aller voir Joseph.
Et l'expo de Rivesaltes qui est encore là jusqu'au 19 septembre. Donc, allez voir les œuvres de Joseph Bartoli, parce qu'il y a ces moments d'internement, mais ensuite il retrouve la couleur, hein, parce que tous ces dessins dans les camps sont vraiment des dessins au crayon avec beaucoup d'intensité, mais bien sûr sombre. Et donc il retrouve la couleur quand il part au Mexique, aux États-Unis, et ses œuvres aussi sur la tauromachie sont assez impressionnantes.
Un moment qui vous a marqué dans votre vie ?
Oui, alors bien sûr, mes origines espagnoles, mais quand on est petit, que ses grands-parents ne parlent pas français, ça n'a pas vraiment de signification, on ne perçoit pas les différences. Moi, j'ai grandi à Groyer. Groyer, c'est la quatrième ville du Tarn. C'est une ville qui s'est construite sur l'industrie du cuir. Et avec un développement vraiment sur le XXe siècle, et puis à partir des années 60, énorme, qui est devenue la capitale mondiale du cuir, hein, dans les années 70. Aujourd'hui, ah, moi, j'ose le dire, on reste la capitale française du cuir. Bon, peut-être qu'il y en a qui me le disputeront, hein, mais bon, c'est pas grave.
Le dynamisme d'antan n'est plus là.
Hein. Mais ça s'est reconstruit de manière différente. Et dans le cadre de ce développement, en fait, il y a une main-d'œuvre étrangère qui est venue massivement. Et donc, moi, ma ville, il y a beaucoup de personnes d'origine portugaise, marocaine, algérienne, tunisienne. Et ça
fonctionne bien.
Oui, bien sûr, ça fonctionne bien. Donc, mes copines, c'est Imen, mon copain, c'est Mohamed, c'est Nola, et mon fils, donc je vis toujours à Groyer, qui s'appelle Pierre, dans cette mixité. Et dans donc, mon école, où cette diversité était présente, mais dont je n'avais pas conscience, moi, à 8 ans, 9 ans, petite fille, on jouait avec les copains et les copines, on essaye d'écouter la maîtresse. Et on avait, dans le centre de loisirs, parce que comme c'est une ville ouvrière, on a eu depuis très longtemps déjà une organisation pour que les gens travaillent, pour que les femmes travaillent notamment. Donc le périscolaire, la garde d'enfants à Groyer, ça fait voilà, des décennies que des outils existaient sur le territoire parce qu'il fallait que tout le monde travaille. Et dans ce centre périscolaire, les animateurs, je ne sais pas de qui était l'initiative, peut-être les maîtresses aussi, il y avait les mamans qui venaient parce que nous, les petites filles, on aimait danser, hein, se faire des chorégraphies. Et il y avait les mamans d'origine marocaine, algérienne qui venaient. Et cet émerveillement de la danse, des ceintures, vous savez, qui brillaient, qui font du bruit, des chants, les petits garçons qui sortaient les tambourins. Cette différence, j'ai pris d'abord conscience de l'émerveillement d'autres cultures que je ne connaissais pas, mais du coup de la différence et surtout de la beauté de la différence.
Une personne qui vous a marqué, alors je connais la réponse qui m'a surpris, ça vraiment me surprendre, donc votre personnage dans votre vie aujourd'hui, mais peut-être que d'autres s'inscriront vous êtes une jeune femme, d'autres s'inscriront dans les années à venir, mais pour aujourd'hui, c'est Carole Delga.
Oui, alors, quand vous m'avez posé la question, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré que des gens bien, j'ai envie de dire. Voilà.
Ça s'appelle avoir de la chance, effectivement.
Et puis, même si parfois il y a des moments compliqués, moi j'aime toujours retenir ce que chaque rencontre m'a apporté, soit m'a appris, y compris sur des choses négatives, mais c'est pas grave. Nelson Mandela, il disait, moi je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc bien sûr, dans ma vie, j'ai eu des moments plus compliqués que d'autres, y compris dans mes rencontres, mais j'ai toujours appris. Et en tout cas, ça m'a toujours donné de la force, ça m'a jamais abattue. Et quand j'ai rencontré Carole, j'ai vu cette femme déterminée, d'une simplicité et d'une accessibilité.
Et avec un accent magnifique.
Oui, alors il paraît qu'on se fait un peu concurrence sur l'accent parce que des fois elle l'a plus fort que le mien et moi je l'ai plus fort qu'elle de temps en temps.
Il me semble que le sien est beaucoup plus marqué que le vôtre.
Ah bon, en tout cas voilà, moi les accents me vont bien, puis de toute façon moi je ne peux pas le trahir. Hein, et j'ai vécu, vous rendez compte, 5 ans en Normandie. Donc on aurait pu espérer que je le gomme, mais pas du tout, pas du tout. Bon, mon avait plaisir à marquer durablement, je pense, quelques coins normands. Et c'est vrai que, Carole, il y a cette osmose politique, hein, je suis vraiment dans la même vision, mais il y a aussi cette vision de la façon dont on travaille avec les gens et dont on travaille pour les gens. Et aimer les gens pour mener des choses pour eux, c'est indispensable. Et ça, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas partout. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui cette émulation, autant dans ma vie politique que dans ma vie personnelle, parce que c'est aussi de bons moments. Et ça compte.
Dernière séquence, c'est la séquence littéraire, puisqu'on parle toujours de livres dans mes émissions, mais vous nous avez dit que vous lisiez beaucoup, donc ça ne...
Jamais assez.
Hein. Non, jamais assez, mais on n'a jamais assez de temps pour lire. Alors, un livre que vous voudriez recommander à nos auditeurs, « L'extrême centre, le poison français » chez Champvallon, et c'est de...
Pierre Cernat.
Voilà, Pierre Cernat qui est un...
Historien.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, comme je vous disais, il y a toujours des bouquins de sciences politiques qui traînent parce que moi, l'histoire me construit, mais il faut quand même arriver à se projeter et à comprendre le réel. Et c'est vrai que depuis 2017, on vit une période politique qui, pour moi, me trouble. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui nous a dit le en même temps, le clivage gauche-droite, il faut le dépasser, et on est dans une nouvelle période où, allez, tout ça, on balaye. Alors, moi, je suis une femme de gauche, je suis une élue locale, c'est ça qui m'a construite, et puis même une militante associative, donc je sais ce que c'est que de travailler avec tout le monde dans l'intérêt d'un territoire, d'un projet, même si sur des valeurs on peut être un peu distant, mais en tout cas se retrouver pour faire. Mais pour autant, d'emblée, dès 2017, hein, moi j'ai tout de suite vu, en tout cas j'ai pensé, c'était ma conviction profonde, que l'abandon ce dépassement, je ne sais pas comment il faut dire, hein, de ce clivage gauche-droite, hein, c'était la droite, c'était le chemin de la droite. Hein, et que pour moi, c'était même le chemin de l'extrême droite ou des extrêmes, parce que, alors moi, dans mon territoire, par exemple, le Front National est historiquement haut. Hein. Mon conseiller départemental, le candidat de droite au conseil départemental, hein, ex-général en 1997, il avait déjà fait alliance avec le Front National, hein, donc c'est vieux chez moi, vous voyez. Et donc, il y avait à la fois, pour moi, l'alternative, du coup, n'allait être que vers les extrêmes. En tout cas, c'était ma conviction. Et quand j'ai découvert, alors je vous le dis franchement, hein, j'ai lu un édito dans La Dépêche qui évoquait l'extrême centre de Pierre Cernat. Et je suis allée voir, j'ai acheté le bouquin. Et ça m'a aidé en fait, à formaliser peut-être ce que je considérais comme des convictions ou des intuitions. Et cette définition de l'extrême centre, ça m'a parlé. Quand vous êtes sur... il évoque, Pierre Cernat, une définition avec trois caractéristiques de l'extrême centre, qui pour moi est le macronisme. Hein. Donc d'abord, se réclamer du centre du spectre politique, le fait de dépasser soi-disant les convictions et donc selon les opportunités là, d'aller d'un côté ou de l'autre. Et derrière extrême, il y a une forme d'intolérance. L'intolérance sur tout ce qui est autre, qui ne serait pas dans la proposition à faire. Et il décline avec des traits caractéristiques de cet extrême centre où il a inscrit, si vous voulez, ce que nous vivons aujourd'hui dans l'histoire, donc avec des épisodes qui se retrouvent. Donc voilà, c'est pas nouveau en fait ce qui se passe aujourd'hui. C'était pour moi aussi le fait de dire comment ce mécanisme, il a déjà existé. La conséquence, c'est la tripolarisation, c'est la fin de la bipolarisation, parce que quand vous rejetez en fait l'alternance gauche-droite, eh bien vous êtes sur une alternance, cet extrême centre et les autres extrêmes. Donc voilà, je le conseille, et en tout cas moi ça m'importe de poursuivre aussi la réflexion sur ce que nous vivons aujourd'hui pour essayer de réagir pour demain.
Alors Pierre Cernat, je le rappelle, l'extrême centre, le poison français, 1789-2019, et c'est chez Champvallon. Et pour ma part, deux livres, mais deux livres qui se répondent. Le premier, c'est « La civilisation du poisson rouge », sous-titré « Petit traité sur le marché de l'attention » de Bruno Patino, que vous trouverez en poche. Bruno Patino est journaliste, il a été dans beaucoup de télévisions, magazines, même sur Internet, et c'est aujourd'hui le patron d'Arte. Donc je vous conseille cette lecture où on vous explique que la génération des millennials, celle qui a grandi avec les écrans connectés, a une durée d'attention de 9 secondes, alors que le poisson rouge c'est 8, donc ils font quand même mieux. Lisez-le parce que c'est un livre important. Et puis un autre livre important qui peut expliquer aussi, comme le premier, pourquoi notre culture est en danger, c'est « L'apocalypse cognitive » de Gérald Bronner, aux Presses universitaires de France. Alors Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Et il nous explique que dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais eu autant de temps pour puiser loisirs et connaissances du monde. Et qu'il explique, un peu comme Patino, mais de façon plus universitaire, mais c'est très simple à lire et très abordable, il explique que notre plus précieux trésor, notre attention, notre temps, est complètement capté par les écrans. Et que ça constitue, et je pense qu'il a parfaitement raison là-dessus, une menace civilisationnel. Si vous ne l'avez pas lu, Claire Fita, je vous le conseille. Apocalypse cognitive, vous connaissez, de Gérald Bronner ?
Non,
il faut
je connaissais
absolument
pas.
Le lire. Absolument lire ce livre.
Merci du conseil.
Ah oui, oui, oui. Moi, je l'ai lu, relu, annoté. Et très franchement, on comprend beaucoup de choses. Et surtout, on conçoit quand même une certaine inquiétude. Et on se rend compte qu'il y a un immense chantier aujourd'hui. Merci d'être venu à ce micro. On a laissé beaucoup de sujets en plan, mais peut-être que j'arriverai à caser une deuxième invitation dans cet emploi du temps des plus chargés.
Avec grand plaisir.
Merci à Lauriane Perrier qui a permis que cette rencontre se fasse, que j'ai sollicité, je ne veux pas dire tyrannisé, mais un peu quand même. Elle est très patiente. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Tiffaine Lemaine, que je remercie, qui s'est levé tôt pour enregistrer cette émission. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres, bien sûr, sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.
Merci beaucoup.